RTL Matin
avec Yves Calvi.
Dispositif exceptionnel en ce lundi, pas de laissez-vous tenter. Nos amis de la culture que je salue et remercie nous ont cédé leur place pour débattre. Après le débat, avec moi dans ce studio, Alba Ventura, Elisabeth Martichoux, Alain Duhamel et Éric Zemmour. Bonjour à tous les quatre. Une semaine de communication pour Emmanuel Macron avec en point d'orgue deux interviews. Il y en avait une de trop, Alain Duhamel ?
Non, j'ai trouvé que celle d'hier était exactement ce dont il avait envie. C'est-à-dire que c'était pas une interview, en fait, c'était un match. C'était un match contre deux contradicteurs. Un contradicteur qui était un idéologue en chef, Edoui Plenel, et un contradicteur qui se présentait comme le tribun du peuple, qui était Jean-Jacques Bourdin. Alors, c'est un genre très bizarre, c'est un genre complètement inhabituel en France. On avait l'impression que c'était trois personnes sur de statut équivalent qui se parlaient. C'était, à mes yeux, un peu dérangeant, quand même. Mais j'ai pas trouvé ça inintéressant, je n'ai même pas trouver ça inutile. Alors, on parlera sûrement du contenu, mais dans la forme, Emmanuel Macron veut être différent. Il est différent. Emmanuel Macron veut être transgressif. Il est transgressif. Un président qui décide de se faire interroger par ceux dont il pense qu'ils sont les plus gênants. Ça n'est pas banal. Et puis, moi, ce que j'ai quand même remarqué, et j'ai fini ensuite.
Merci.
Mais ce que j'ai quand même remarqué,
merci
c'est,
de nous
que, non, c'était pour vous rassurer. C'était que sa jeunesse éclatait en face de ses interlocuteurs.
Clairement. Oui.
Il y avait une génération de différence. Et si vous vous rappelez les interviews, il n'y en a pas eu beaucoup de ce genre avec des présidents, avec une génération de différence dans ce sens-là.
Et alors, ma première question était par définition polémique, c'est est-ce qu'il y a eu un rendez-vous de trop cette semaine ? Elisabeth Martichoux, je vous ai vu réagir.
Alors, je vais répondre à la question, puis je vous parlerai de l'émission d'hier soir après. Écoutez, on a tellement, je me souviens moi ici, dans ce studio avec vous, face à Benjamin Griveaux, le porte-parole, en lui faisant presque injonction de demander au président de venir à la télé pour expliquer, donner le sens de ses réformes, mais Benjamin Griveaux, quand est-ce qu'il viendra, etc. On a tous lu, entendu, tous dit, silence assourdissant du président dans cette séquence entre guillemets politique, on va pas dire aujourd'hui qu'il a trop parlé. On peut pas se contredire à ce point.
Non, donc, enfin, excusez-moi, il a parlé jeudi, était-il obligé de le refaire hier soir, et dans les circonstances que vient de rappeler Alain Duhamel.
C'était deux émissions très très complémentaires. Il a fait effectivement de la pédagogie face à un perno patelin classique. Jeudi, hier, il était dans un match, on l'a dit, on a beaucoup dit, on a abusé de l'image du ring qu'il voulait lui. Il l'a fait avec gourmandise, mais là où je suis un peu en désaccord avec Alain, c'est qu'on s'est retrouvé, comme l'a dit d'ailleurs Castaner sur notre antenne tout à l'heure, dans un contexte de masculinité, un peu trop de masculinité, sans doute. Ils se sont fait plaisir, le président s'est fait plaisir, voyez comme je suis pugnace, voyez comme je réponds, voyez comme je suis fort, voyez comme j'ai, etc. Et les deux journalistes, eux, se sont fait plaisir, faire des éditos plus que des questions. Est-ce que c'était stérile pour les téléspectateurs ? Peut-être.
Alba Ventura, il n'est pas là pour se faire plaisir, le président de la République. Je ne vous parle même pas de mes confrères.
C'est lui qui s'est créé ces deux opportunités-là. Effectivement, comme le disaient Alain et Elisabeth, il voulait absolument avoir ce deux types d'interviews. Une interview un peu plus apaisée, arrondie, où il faisait de la pédagogie, et puis une autre interview un peu plus confrontation, musclée, etc. Maintenant, c'est une chose d'être un président mis en danger, si vous voulez, avec deux intervieweurs assez pugnaces. C'est autre chose d'en tirer un résultat positif. C'est autre chose de se regarder le nombril quand on pose des questions. Parce que moi, si j'avais été téléspectateur hier, j'aurais zappé. J'aurais pas regardé jusqu'au bout l'émission parce que c'était tout simplement inaudible, j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était confus. J'ai trouvé que c'était pénible.
C'était crispant.
Et puis, c'était pas pour nous, l'interview. C'était pas pour Alain Duhamel, Éric Zemmour et Elisabeth Martichoux.
Si, c'était pour nous.
C'était pour les Français, d'abord.
Oui,
c'était pour les Français.
Le résultat, c'est que c'était pour nous.
Voilà. Enfin,
et pas pour
eux.
Les Français.
Oui, mais au final, c'était pour eux. Ouais, voilà.
En gros, vous nous dites que la cible est ratée, selon vous, parce qu'il n'a pas parlé au sens le plus large à la population française. Éric Zemmour.
Moi, je ne suis pas d'accord avec vous.
On n'aurait pas pensé.
Je ne suis pas d'accord. D'abord, ça m'amuse beaucoup ce que dit Elisabeth, parce que, évidemment, j'étais sûr qu'elle allait dire ça. Et évidemment, j'étais sûr qu'on allait dire ça.
Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment.
Je vais voir la suite. parce que, évidemment. Quand on fait vraiment de la politique, là, on est dans la masculinité. Ça, c'est inévitable. C'était de la politique. C'est-à-dire, c'était de l'idéologie. C'était pas, Monsieur Macron, est-ce que vous allez bien?
On ne peut pas faire de politique quand on est féminin.
Qu'est-ce que vous allez faire?
Non, mais. J'entends Monsieur Zemmour.
J'ai laissé Elisabeth dire ce qu'elle pensait.
Allez-y, j'ai le droit de dire ce que je pense. Oui.
Maintenant, deuxième chose, j'ai compris pourquoi il avait choisi Edoui Plenel en confrontant face à lui. C'est parce que face à Edoui Plenel, il sera toujours le plus sympathique. C'est déjà un atout extraordinaire. Deuxièmement, il peut rassembler 80% de la population française contre lui. Parce que lui, il incarne la France insoumise. Il incarne donc à peu près entre 15 et 20% de la population. Il le dit lui-même d'ailleurs. Il incarne les zadistes, les associations qui aident les migrants, les faux étudiants qui bloquent Tolbiac. C'est ça la France de Plenel. Donc évidemment, face à cette France de Plenel, Macron, il est dans du beurre. Il a 80% de la population. C'est magnifique. Donc on voit bien l'intérêt. Maintenant, moi, je contrairement à ce qui s'est dit ici, je finis. Moi, j'y ai vu un intérêt parce que il y a une vraie bataille idéologique. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas une bataille idéologique totale, c'est-à-dire que tous les représentants des idéologies aujourd'hui en jeu. Je vous donne un seul exemple. Quand il se paye Orban, il y a personne pour défendre Orban. Alors que c'est le vrai clivage aujourd'hui, mais voilà, c'est un exemple.
Alors, vous venez d'évoquer le Premier ministre hongrois. Je marque une première pause dans cette émission. On se retrouve dans quelques instants pour débattre avec Alba Ventura, Elisabeth Martichoux, Éric Zemmour et Alain Duhamel.
RTL 9h11.
Invitez-vous dans les coulisses des émissions de RTL avec le direct vidéo.
Rendez-vous sur RTL.fr. RTL Matin
avec Yves Calvi.
Alors, je vous rappelle que nous sommes avec Elisabeth Martichoux, Alba Ventura, Alain Duhamel et Éric Zemmour. On a oublié les Français, ça c'est le commentaire en gros majoritaire ce matin concernant cette intervention télévisée, pour que le président se fasse plaisir avec deux journalistes qu'il avait choisis. Vous nous avez dit il y a quelques instants, Alain Duhamel, mais non, il y avait des moments où c'était intéressant. Je fais remarquer par exemple qu'on n'a pas parlé de chômage.
Non, alors, je ne suis pas en train de vous dire, c'était l'émission du siècle et tout a été traité d'ailleurs. Dans aucune émission, tout n'est traité.
Non, mais...
En revanche, commencer par les frappes en Syrie, franchement, c'était le sujet du jour. Hein. C'était
Ça, personne ne le conteste. Je demande si vous trouvez normal qu'en deux heures et demie d'émission, on ne parle pas de chômage.
Et pas d'écologie. J'ai trouvé que l'ordre des thèmes, c'était les journalistes qui choisissaient l'ordre des thèmes, que l'ordre des thèmes était franchement saugrenu. C'est-à-dire que ce qui était le plus intéressant arrivait à 10 heures du soir.
Exactement.
Et ça, c'est ridicule. Voilà. Je suis persuadé que si au lieu d'avoir Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel, on avait eu Alba Ventura et Elisabeth Martichoux, j'espère que ça sera le cas la prochaine fois, dans cette hypothèse-là.
Ça n'aurait pas été un combat de
classe. Non, mais ça aurait été probablement des questions plus précises, moins polémiques, mais au contraire, intéressant beaucoup plus les gens et concernant davantage la réalité de leur vie.
Et Éric Zemmour est d'accord.
Non.
Ah bon, pas très bien, alors allez-y.
Non, moi je ne suis pas d'accord.
C'est un peu pour lui
que je l'ai dit. Oui, je maintiens que c'était intéressant, mais parce que quand vous nous dites ça... Il représente pas tous les Français, mais ça n'existe pas tous les Français. Il faut arrêter avec ça. Il y a des clivages politiques, idéologiques, sociaux, culturels. Eux représentaient une partie. Bon ben, on peut pas faire 10 personnes. C'est pas possible. Donc, faut arrêter avec ça. Alors, en revanche, je suis d'accord avec Alain sur un point. Le plus intéressant est arrivé à 10 heures du soir. Ça, c'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, on a vu d'ailleurs qu'il y avait deux Macron. Qu'il y avait le Macron souverain sur l'économique et sociale, et qu'il y avait le Macron qui comprend rien sur l'islam et la migration. C'était net, mais même, on voyait, c'était du boulgi-boulga quand il parlait de l'islam, manifestement il comprend rien, et en revanche sur l'économique et sociale, il est supérieur, il les a écrasés. On voit, mais c'était même caricatural.
Je suis un peu affolé, mais je ne suis pas en désaccord.
Moi, ce qui m'a gêné...
Mais ça m'affole.
je reviens sur sur le côté confus et chaotique de cette émission, parce que j'ai vraiment trouvé que ça partait dans tous les sens. Et si vous voulez, je me suis même demandé à un moment si, finalement, ce n'était pas fait exprès, s'il n'y avait pas un calcul, mais de la part de Macron. C'est-à-dire que, dans le flot de tous ces sujets, par exemple, on relègue la SNCF, qui est un sujet important, très loin dans l'émission. Et finalement, ça bouffe tout, ça pollue tout.
En
revanche, il y a des pistes sur la SNCF. C'était quand même intéressant.
C'était entre 9h et
10h. Il y avait des pistes
qu'on connaissait déjà un peu, elle.
Ah oui, mais enfin, c'était lui qui le disait, et ça allait plus loin que l'émission précédente.
Elisabeth Martichoux a l'air d'accord.
Oui, je suis d'accord. Juste pour répondre tout à l'heure, quand même, à Eric, vous dites ça aurait été mieux si on l'avait fait. Je ne suis pas sûre qu'il serait d'accord, Eric, pour qu'Alba et moi, on le fasse. Parce que dans le fond, mais on en reparlera, considère que par nature, Les femmes ne sont pas faites pour la politique. Fin de parenthèse.
Je suis d'accord.
Et bim,
j'assume.
Avec ce
non, mais
dis,
c'est pas bim, j'assume.
Voilà, j'ai traduit sa pensée.
J'assume.
Deuxièmement,
si vous nous écoutez,
moi,
s'il vous plaît, ne rentrez pas directement dans un mur en voiture, parce que je comprends que ça puisse
mais,
vous faire un jet.
Éric Zemmour pense ça, notre ami.
Oui, oui, absolument, je pense
deuxièmement,
ça.
Deuxièmement, je trouve que cette émission, effectivement, est pas crispante, comme le disait Albin. Je suis tout à fait d'accord. Et quand il a dit chiche, je me suis dit, dans un an, on verra ce que je fais ce jour-là. Mais sinon, elle avait quand même quelque chose de nouveau. Et en cela, elle était profondément macronienne. Cette émission, c'était un pari. Macron, c'est un pari. Il parie tout le temps, surtout sur des
solutions, sur des politiques, etc. Mais le pari est gagné, Elisabeth. Est-ce que le pari est gagné pour le président de la République ?
Le pari, je pense, n'est pas gagné pour les téléspectateurs, parce qu'il en a beaucoup perdu en route. J'en suis assez persuadée. Il n'est pas complètement perdu pour Emmanuel Macron. Vous savez, les émissions, ça ne change pas les opinions.
Oui,
jamais. Hein.
Oui. Non.
Mais il a montré qu'il était pugnace, il a montré qu'il en avait, il a montré. Et c'était le but aussi.
Merci d'avoir. Je vous en prie.
Simplement, c'est vrai qu'on est tellement habitué à une communication très lisse, très léchée de la part de l'Élysée. Il nous montre Macron comme ci, Macron comme ça, Macron avec une personne qui l'interpelle dans la rue, etc. Que effectivement, c'était de bon augure d'avoir à la fois TF1 avec Pernod et après être bousculé par deux autres journalistes. Mais je rejoins encore une fois, moi, Elisabeth, sur l'idée qu'on fait des émissions pour parler aux Français et on ne vient pas emmerder les Français. Et j'ai trouvé que c'était le cas. Nous, on est des journalistes, c'est pas pareil. Mais les Français, ils reçoivent pas les choses de la même manière.
Ah bah ils avaient Monaco contre le PSU. À la même heure.
Si on obtient les chiffres pendant l'émission, évidemment, nous vous les donnerons. À tout de suite, juste une petite précision concernant Éric Zemmour. On ne parle pas de Boulgui Boulga, mais de Gloubi Boulga. Il est très important d'être fidèle à ses références, en particulier littéraires.
RTL 9h18.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour tout comprendre de l'actualité.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Bon, on est en train de sortir nos petites calculettes pour voir les chiffres des uns et des autres. On n'a pas encore le chiffre de BFM, je vous le dis tout de suite. TF1 est en tête avec 4,7 millions, devant France 2, 3,5 millions, France 3, 2,6 millions, M6 est à plus de 2 millions, et 1,8 million, excusez-moi, et le foot a fait 1,2 million. Ça fait déjà beaucoup de monde, mais on ne peut rien en conclure pour l'instant concernant le résultat de BFM. Alors, il y a trois choses qui ont clairement été des éléments d'information hier soir. L'éventualité de la reprise de la dette de la SNCF, en tout cas sous condition, le jour de solidarité concernant la dépendance et les explications présidentielles concernant la Syrie.
Oui.
Voilà, qu'est-ce qui vous paraît important et en l'occurrence là, est-ce qu'il a été porteur d'informations pour les Français, Alain Duhamel?
En ce qui concerne la SNCF, je pense qu'on voit s'esquisser ce que peuvent être des pistes de sortie, hein, parce qu'il y a l'histoire de la dette. Mais il y a aussi ce dont, d'ailleurs, moi, je parlais depuis un mois. Hein, et donc, c'est parce
Alain Duhamel avait raison.
Non, pas du tout. C'est parce que je lisais les bons auteurs.
Ah, très bien.
Ben oui, ben oui, c'est très différent. Et qui disait, la solution, c'est vraisemblablement une convention collective avec les industries ferroviaires. Parce que ça dédramatise complètement l'histoire du statut. Bon, c'est sur ce point, je pense qu'il a avancé. Mmh. Et sur la dette, ben, il n'a évidemment pas donné ni d'échéance, ni de calendrier, ni de masse. Enfin, on voit très bien que quand il y aura un accord, l'État finira par reprendre l'essentiel de la dette. D'ailleurs, je ne vois pas très bien comment on peut faire autrement. Et qui la reprendrait autrement et dans quelles conditions. Bon, ça, c'est la première chose. En ce qui concerne les frappes sur la Syrie, j'ai trouvé qu'il était franchement convaincant, même si je reconnais que la légalité est extrêmement marginale. Mais je pense
il parle de légitimité, Alain. Oui, il ne parle pas de légalité.
Point soulevé par Bruno Retailleau ce matin sur RTL.
Beaucoup l'interrogent sur la légalité. Et moi, je dis, je ne suis pas sûr que la légalité, il ait donné la bonne réponse, mais en revanche, je pense que c'était bien de faire ces frappes au moment où on les a faites. Et en ce qui concerne la dépendance, on sait très bien que c'est la question de la prochaine génération. Ça va être la question principale, que ça va devenir un problème gigantesque. Disons que l'hypothèse déjà d'une deuxième journée...
Du temps de Chirac, déjà, on en parlait.
Oui, mais plus on avance, et plus
c'est bien pour ça que ce n'est pas le moment de s'endormir.
Et nous sommes loin d'avoir trouvé une solution globale, comme l'a très clairement dit ce matin Christophe Castaner au micro d'Elisabeth Martichoux. Elisabeth, sur les trois points qu'on a soulevés rapidement, ce qui vous paraît important, bref, ce qui a été porteur d'infos hier soir.
Alors, sur SNCF, je pense qu'il n'a rien dit de neuf, absolument rien. Édouard Philippe l'avait dit dès le premier jour, l'État prendra ses responsabilités. Il confirme en revanche que les efforts devront être faits par les cheminots avant même, c'est-à-dire 2020, ça, c'est une date, c'est vrai que on l'a entendu, on n'avait pas entendu dans sa bouche, avant que l'État ne fasse l'effort. Donc travaillez d'abord, faites vos efforts et on ne vous lâchera rien avant sur la dette.
Donc,
mais on
ça ne change pas, reprise de la dette si par ailleurs nous avons des contreparties objectives.
Absolument.
S'il y a la perspective d'une solution.
Oui. Ensuite, c'est déjà pas mal. Sur la Syrie, je trouve que sur les preuves, on est quand même encore un tout petit peu perplexe. Hier, il n'a pas donné de précision et c'est vrai qu'il y a des questions qui sont posées qui ne sont pas encore, je ne trouve pas encore complètement convaincantes.
Il faudra un moment qu'il réponde à cette question quand même.
Moi, je trouve que hier, de ce point de vue-là, il n'a pas convaincu. Je voudrais juste dire qu'il y a un sujet, et je disais hier soir qu'il a traité un peu par-dessus la jambe. C'est la question de la jeunesse qui se braque un peu à l'université. Certes, ce sont des minorités. Certes, il y a sans doute des agitateurs professionnels. C'est même, il n'y a même aucun doute. Mais je trouve qu'il traite le sujet avec une forme de légèreté. Il l'a complètement évacué, balayé de la main jeudi. Hier, il y a consacré très peu de temps et très peu de considération. Alors que la formation, dans son discours, c'est pas seulement les classes de CP, ça commence là. Mais il y a aussi une question de entrée sur le marché du travail et de formation.
De ce que vous nous dire, là. Il n'a rien dit sur la SNCF.
Mais moi, j'ai dit qu'il n'avait rien dit.
Il ne nous a pas convaincus sur la Syrie et il traite les jeunes légèrement.
Mais oui, c'est ce que je dis depuis le début. D'accord, sur le fond, c'était assez stérile.
J'entends bien, mais je voulais marquer le trait en quelque sorte.
Autrement dit, la jeunesse, ce sont les bloqueurs.
Dans le résumé qu'on peut faire de l'intervention présidentielle hier soir sur ces questions,
oui
absolument. Alba Ventura.
Moi, je trouve que sur la Syrie, là, franchement, il s'en est bien sorti parce que on a beau parler de l'égalité du Conseil de sécurité de l'ONU, il n'empêche que il y a une légitimité de la part de ces trois membres-là, qui sont des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Et on a, oui, Eric, je suis désolée. Ouais, non, mais je sais ce que t'en penses. Tu dis toujours la même chose. Je crois qu'à un moment donné, Bachar el-Assad n'est pas maître du monde. Je crois qu'à un moment donné, on doit dire à Bachar el-Assad et on doit essayer de convaincre la Russie qu'il faut agir autrement.
Mais ma chère Alba, Assad n'a jamais prétendu être maître du monde. En revanche, les États-Unis et les Anglais et les Français maintenant, qui se permettent de bombarder n'importe quel pays du monde uniquement parce qu'ils estiment qu'il a mal fait, ça s'appelle se vouloir les maîtres du monde.
Mais on peut continuer à bombarder un peuple comme ça, sans impunité, sans jamais rien dire.
Mais c'est la guerre.
Avec des armes interdites.
Non mais on n'est pas sûr que ce soit Assad qui s'en soit servi. Moi, je connais les magouilles de Timișoara, des enfants irakiens tués dans les hôpitaux, de l'armée irakienne, la 4e armée du monde. Je peux vous la faire comme ça toute l'émission là. Non, tous les mensonges depuis Eric, 20 ans.
Je sais qu'Eric, mais tout le monde est calme.
Que ça soit du tout.
S'il y a une personne qui n'est pas calme, son prénom c'est, je crois, Eric. Mais sur le fond. Les armes chimiques sont interdites.
Oui.
Et l'idée selon laquelle c'est un montage des Occidentaux.
Non, pas des Occidentaux, des djihadistes.
Ah oui. Ben oui.
Alors donc, ça s'est déjà fait, hein. Oui. Dans les guerres de Yougoslavie avec ça.
Et Bachar al-Assad, c'est pas un parce ange. Que ça
s'est fait. J'ai jamais dit que c'était un ange. Je sais pas, mais un dictateur. On a renversé les dictateurs, on a vu ce que ça a donné.
350 000 morts, une guerre qui a débuté depuis 7 ans. Si le président
problème.
Ne fait rien, on dit il ne fait rien.
Problème.
Et s'il fait, on dit il fait.
Non, mais 350 000 morts et au moins 3 millions, voire 5
de déplacés.
C'est une situation qui est horrible. Ce qu'on a frappé hier, ce sont, parce que ça, on ne dit pas le contraire, ce qu'on a frappé hier, ce sont des usines de construction de l'arme chimique.
Et en 30 secondes, Eric, je vous cède la parole, et c'est tout à fait normal pour nous dire, non mais, vous venez de nous dire, votre in fine, vous nous dites sur ce dossier, c'est le problème des Syriens, point barre.
Absolument.
Ça ne nous concerne pas.
La coalition internationale, ça sert à quoi?
Moi, j'estime que la position... Ça n'existe pas, la communauté. C'est un mythe. Et j'estime que la position d'Alba, c'est du néocolonialisme. Voilà.
Et la position d'Éric, c'est du nationalisme parfaitement classique.
Oui, absolument. Mais oui. Absolument. Ça, j'assume. C'est comme avec Elisabeth, j'assume aussi.
Puisque vous êtes d'accord sur l'analyse de vos sentiments et de vos pensées...
Et de vos étiquettes. Comme disait le général de Gaulle, je suis d'accord avec mes arrière-pensées.
On va en rester là. Merci infiniment. Alba Ventura, Elisabeth Martichoux.
C'est lourd à porter, non?
Abel et Éric Zemmour. Nous verrons si son petit sac est un peu trop lourd. Une autre fois, ça fera l'objet d'un débat. Merci infiniment.